Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélave Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne pour bien commencer la semaine avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Ah, Shavua Tov, je dis commencer la semaine, mais à la limite je me rends pas compte que... comme on dit, je ne croyais pas si bien dire, puisque on commence un nouveau livre. On attaque Shemot, et qui est un livre aussi plein d'histoires, aussi riche que Bereshit, mais qui commence par une affaire de noms. Ben voilà, les noms, il s'appelle. Donc Shemot veut dire les noms. Et chez nous, les Juifs, les noms des uns et des autres, celui qu'on porte évidemment est très important. C'est là-dessus que vous avez envie d'intervenir ce soir. Quelle est l'importance du nom? Quelle place on lui donne dans notre tradition, Rabbi?
Exact. C'est vrai que ce livre s'appelle Shemot, les noms. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que Bereshit, donc le livre précédent, que l'on traduit en français par la Genèse, se termine aussi par des noms, puisque nous avons Yaakov, donc le troisième des patriarches, qui va bénir ses enfants. Et donc va les citer tous, et à chacun il va donner une bénédiction particulière. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de s'arrêter sur le terme hébraïque qui désigne le nom. Alors, le mot en hébreu qui désigne le nom, N-O-M, c'est Shem. Shem. Shem, c'est en même temps, vous savez que l'hébreu est une langue consonantique, donc on peut voyelliser autrement le terme. Eh bien, Shem, c'est aussi Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Quand on dit là-bas, tout là-bas, eh bien, c'est le terme de Sham que l'on utilise parce que le nom, au fond, est une indication vers lequel on va tendre. Le nom, au fond, transporte, est censé en tout cas transporter à l'intérieur de lui, ce qui nous renvoie à notre objectif d'existence. Traduit de manière différente, le nom, c'est ce qui me donne une identité particulière, c'est ce qui crée chez moi cette idée de singularité, et cette singularité m'amène à réfléchir au but qui doit être le mien, vers où je dois arriver, vers où je suis censé tendre. Ça, c'est déjà la première notion. C'est pour cela que le nom... à quelque chose de fondamental parce que il nous oblige à penser et à la fois à notre singularité et à notre objectif de vie. Et puis en même temps, c'est intéressant de voir que le terme de Shem, le nom, eh bien, c'est à l'origine aussi d'un autre terme qui est le mot Shemama. Shemama, c'est la dévastation. Intéressant de voir que quand on dit que Haaretz Shemama, la terre est dévastée. Traduction, tous les éléments de cette terre ne peuvent plus produire quoi que ce soit. Quand une terre est dévastée, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là, mais qui ne peuvent plus produire. Et quelque part, il y a ici l'élément qui nous renvoie au fait que ne pas vouloir connaître son nom, eh bien, c'est tout simplement ne pas utiliser ce qui est présent pour créer, faire quelque chose avec. Ça, c'est déjà, je crois, les deux premières notions qu'on doit avoir clairement en tête. Et donc, à partir de là, eh bien, on nous redit à nouveau, « Elé Shemot Benei Israël ». Voici les noms des enfants d'Israël, « Habbaim et Mitzrayim » qui viennent en Égypte, et on nous les cite. On nous les cite parce que, en nous les citant, le texte de la Torah est en train de nous rappeler que s'il y a 12 noms, s'il y a 12 tribus, c'est qu'il va y avoir 12 chemins, 12 manières différentes. Alors aujourd'hui, on aurait dit d'être juif ou de pratiquer son judaïsme. Il ne s'agit pas du tout de se dire « je définis moi ce que veut dire être juif, mais dans ma manière d'accomplir la volonté d'Hachem, eh bien, je vais avoir aussi ma singularité, ma particularité. » Et intéressant de voir que, eh bien, les noms aussi vont nous amener à réfléchir sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Regardez. Quand vous observez les noms qui ont été donnés aux Shvatim, c'est-à-dire aux tribus, lorsque vous observez les noms qui ont été donnés aux fils de Yosef, eh bien, chaque fois, il y a des explications de texte qui sont données, mais qui sont très bouleversantes. C'est-à-dire, si je voulais faire de la psychanalyse de bas étage, je dirais, mais quel poids on va faire peser sur les épaules de ces enfants ? Regardez, lorsque Yosef donne le nom à ses enfants, Menaché, Kinashani, ça renvoie au moment de grandes difficultés qu'il a vécu. Ephraïm, par contre, c'est Ifrani, c'est le moment dans lequel justement les choses ont commencé à se développer de manière positive. C'est l'expression de la reconnaissance. Lévi, Ataï, il avait ici l'ail. Ah, avec sa naissance, mon mari, dit Léa, Jacob va se rapprocher de moi. Reuven, regardez mon fils, sa particularité, Yosef de Rachel, que Dieu me rajoute encore un enfant. C'est intéressant. C'est-à-dire de voir que la Torah, ici, est en train de nous montrer que le nom est l'expression de quelque chose qui a été vécu par le parent et que l'enfant va porter. Alors, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire à travers ces noms ? Il est en train de nous dire sans doute que le Klal Israël se construit dans un système dans lequel on n'a pas peur de mettre en mots. Dans un système dans lequel on va pas cacher les choses. Oui, en effet, Rachel a ce désir d'avoir encore des enfants. Oui, en effet, Léa a cette impression ou a ce vécu dans lequel elle se rend bien compte que son mari, Yaakov, n'a pas le même type de relation avec elle qu'avec Rachel. C'est une réalité. Et au fond, la Torah nous dit, eh bien, celle le met en mots. Alors, évidemment, elle le met en mots en disant que cet enfant va la renvoyer à ce moment-là, mais ici, on a peut-être une indication fondamentale sur la manière dont on doit construire justement le peuple juif qui est symbolisé par ces 12 Shvatim. C'est qu'on ne pourra pas construire l'histoire du peuple d'Israël si on n'est pas prêt, au fond, à savoir mettre en mots ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va aller un tout petit peu plus loin. On a ici l'univers des noms, et on a constaté dans la paracha justement précédente que ces noms émergent, et parmi ces noms, je vais m'arrêter sur deux d'entre eux, qui sont les fils de Yosef, qui vont être considérés par la suite comme étant deux tribus bien distinctes, et qui auront chacune une part. Et le texte nous dit que lorsque Yaakov va bénir ses enfants, eh bien, il va littéralement rendre intelligentes ses mains en posant la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Et leur nom ici joue un rôle fondamental dans ce que Yaakov est en train de faire. Si quel est Yadav ? Il fait ça avec intelligence. Pourquoi ? Comme nous l'avons vu, Menaché représente le souvenir des moments difficiles de l'histoire de Yosef. Ephraïm représente au contraire des moments beaux, ces moments dans lesquels justement les choses se sont transformées, se sont trouvées dans une dynamique qu'on appellerait aujourd'hui positive.
J'ai entendu, je parle sous votre contrôle, vous me direz si j'ai raison. J'ai entendu que le nom, finalement, c'est le premier lien qu'on a avec quelqu'un. En tout cas, l'un des premiers. On dit, voilà, Rav Eli Lemel, c'est le tout premier point de connexion que j'ai avec vous. Et que ça serait, je parle au conditionnel puisque je parle devant vous et que vous allez me corriger, et que ça serait l'une des raisons pour lesquelles on dit à Dieu, nous bénissons ton nom. Nous l'appelons, même Dieu, nous l'appelons le nom. Parce que comme on n'a aucune idée de ce qu'il peut représenter vraiment, finalement la seule illustration qu'on peut avoir, le seul lien qu'on peut avoir, c'est un nom, Est-ce que vous, j'ai envie de dire, est-ce que vous validez ce que je viens de dire ?
Complètement. C'est sûr et certain que, d'ailleurs, vous le voyez très bien dans le monde des relations humaines, lorsque vous prononcez le nom de quelqu'un, ça renforce ce lien. Parce qu'on montre bien qu'on voit chez lui sa dimension particulière et unique. Mais par rapport à ce que j'étais en train de vous dire sur Ephraïm et Menaché, eh bien, il va mettre Ephraïm avant Menaché. Pourquoi ? Parce que le nom de Ephraïm, eh bien, vous savez, ça ressemble un petit peu à cette histoire du prof qui un jour propose à ses élèves de leur faire une interrogation. Et puis, il leur donne à chacun une feuille et leur demande de la retourner. Et puis, il leur dit maintenant, commentez-moi ce que vous venez de voir. Et sur cette grande feuille blanche, il y a un point noir. Et bien sûr, tous les élèves vont écrire qu'il y a un point noir. Et le maître de leur dire non, il y a d'abord une feuille blanche. Ah. Ephraïm symbolise justement le premier regard que l'on va porter sur les choses. Est-ce que je regarde d'abord les choses dans leur dimension belle, et après je découvre les éléments difficiles ou le contraire ? Et je trouve très intéressant de voir que justement, la Torah, dans ce point de contact entre le moment où on va aller en exil et toute l'épopée de Yosef, eh bien, nous parle de ces noms et de l'intelligence que Yaakov va eu de savoir. Il prend une responsabilité par rapport à un futur, que de ne pas vouloir le voir, eh bien, c'est Shmama, c'est la destruction, que justement le nom est aussi là comme étant une forme de symbole de la nécessité que l'on a de mettre en mots, c'est-à-dire que ces 12 tribus qui sont le fondement du peuple juif, parce que nous savons que leur nom, c'est la capacité qu'ont eu les mères de mettre en mots, eh bien, nous indique que créer une histoire, c'est de ne pas avoir peur de mettre en mots les choses, et ça, c'est fondamental. Et puis ce petit détour que j'ai voulu faire par Ephraïm et Menaché pour montrer quel doit être l'état d'esprit que l'on aura par la suite lorsque l'on construira le peuple d'Israël. Et ça, on l'apprend à nouveau de ces noms. C'est-à-dire que quand la Torah nous donne ces noms, c'est pas juste pour qu'on sache qu'il y en avait un qui s'appelait Ephraïm, un qui s'appelait Menaché, un qui s'appelait Reuven. Chaque fois, on est ici dans un support très fort d'enseignement, et à partir de cela, eh bien, de manière ultra concrète, ce que nous apprenons de ces noms, c'est cette singularité, cette nécessité de voir d'abord cette feuille blanche avant de voir le point noir, de ne pas avoir peur de mettre en mots les choses. Et avec cela, on construit l'histoire du peuple juif.
Rav Eli Lemel, merci pour ces paroles importantes. Je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua Tov.
On part pour Jérusalem, on retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shavua Tov.
Shavua Tov, Shavua Tov, des bonnes nouvelles pour nous tous.
Amen.
Et la bonne santé, le rétablissement pour, je pense qu'on enregistre alors qu'il est, mais j'espère que d'ici là on aura des bonnes nouvelles, pour Nadav Chaim ben Eritria.
Ah, très bien.
Qui a été grièvement blessé Shabbat dernier à Jérusalem. Et son état de santé s'est brusquement dégradé, alors on enregistre. Alors voilà, j'enregistre en tout cas pour sa bonne santé. J'espère que quand vous écouterez, ben, il ira
Amen.
Mieux. Et que,
Amen.
Ira
très, bien. Très important. Donc voilà, vous avez raison. Bon, les auditeurs se doutent bien que les rabbanim, ils n'enregistrent pas Shabbat après-midi. Donc ouais. Là, à l'heure où nous enregistrons, ce jeune soldat qui a sauvé la vie des gens du quartier
ouais.
est à l'hôpital dans un état grave. Sa famille a dit qu'il se battait pour sa vie, qu'il est en danger pour sa vie. Et c'est magnifique, on va donner notre cours, les refouah shlema shel Nadav ben, on ne connaît pas
Nadav
le nom normalement,
ben c'est
pas
Eritria.
Ben Eritria, ok, magnifique. Mais d'ailleurs, voilà, on va faire un point compas, on va lui donner quelque chose de très beau à ce cours. Qu'est-ce qui a été bon, on est dans la paracha du don de la Torah, ok, mais qu'est-ce qui a été donné au Mont Sinaï? Les rishonim, la Torah, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, exactement. Bon, alors, disons, d'une manière générale, au début de Pirkei Avot, au début des Maximes de nos pères, on nous dit Moshe Kibel Torah Mi-Sinaï, donc Moshe a reçu la Torah au Mont Sinaï. Alors, le Maharal de Prague dit, on aurait dû dire qu'il a reçu la Torah au Mont Sinaï, non pas du Mont Sinaï. En disant qu'il a reçu du Mont Sinaï, alors une des explications que donne le Maharal, c'est que le Sinaï, dans la langue des sages, ça fait référence à la connaissance générale de la Torah. Donc en fait, il a reçu à ce moment-là la connaissance totale de toute la Torah. Maintenant, de tous les secrets de la Torah, de tous les secrets de l'univers, Hachem lui a tout donné. Maintenant, on sait bien que plus tard, tout au long de la présence des Béné Israël dans le désert, il y a un certain nombre d'autres halakhot, d'autres lois, qui vont être données tout au long de la présence des Béné Israël dans le désert. Mais le Talmud, lui, s'interroge de manière beaucoup plus radicale, en fait, sur ce don. Il dit finalement, les Béné Israël, à ce moment-là, ils ont dit « Ok, on veut bien la Torah écrite, mais on a un vrai problème avec la Torah orale. » Pourquoi ? Parce que la Torah orale, c'est l'ensemble de l'architecture des lois qui sont inscrites dans la Torah écrite. Et il faut l'étudier, il faut se casser la tête, il faut... nos sages, ils ont un langage, ils disent « Cacher Kegidin, elle est dure, c'est pour la percer, pour la comprendre, et pour arriver à intellectuellement l'intégrer dans son expérience de vie. » La Torah orale, donc c'est finalement le dictionnaire de la Torah écrite. Est-ce qu'à ce moment-là, les Béné Israël ont réellement été capables de recevoir la Torah orale? Alors pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, en compagnie de Kli Yakar. Le Kli Yakar, c'est un commentateur qui apparaît dans toutes les éditions du Chumash de la Torah. C'était un élève du Maharal de Prague. Et il va dire la chose suivante. Les Béné Israël ont reçu l'ordre au moment où Hachem va exercer la plaie des premiers-nés, ils reçoivent l'ordre de mettre du sang du sacrifice de Pessah sur les linteaux des portes, sur les côtés, et également sur le fronton de la porte, les mezouzot et le mashkof, donc sur les linteaux de chaque côté et sur le mashkof. Et quand on lit le verset, on voit que l'ordre qui a été donné, c'est de mettre des marques de sang d'abord sur les linteaux de chaque côté et ensuite après par-dessus sur le fronton. Or, on voit que lorsque Moshe Rabbeinu, lui, va donner l'ordre aux Bnei Israël de faire ce geste-là, il va leur dire d'abord de commencer par mettre le sang. Lui, il va dire, vous le mettez d'abord sur le fronton, c'est-à-dire sur le haut de la porte, et ensuite, seulement après, vous le mettrez sur les côtés de la porte. Donc, il ne va pas répéter exactement ce que Hachem lui a demandé. Hachem lui demande qu'on mette d'abord donc sur les côtés et puis ensuite au-dessus. Et lui, Moshe Rabbeinu, évidemment, vous mettez d'abord au-dessus et ensuite sur les côtés. C'est quoi la discussion? Alors le Kli Yakar va dire au nom du Midrash qu'en fait, les côtés de la porte, ça représente Moshe et Aaron, c'est-à-dire les deux transmetteurs de la Torah. Moshe reçoit la Torah, mais en compagnie de Aaron, il va l'enseigner au peuple. Et le fronton, ce qui est au-dessus, ça représente Dieu, l'être divin. Quand Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit, en fait, si on traduit ce qui est dit ici, toi et Aaron, vous allez être les transmetteurs de la Torah. Donc il faut que les Bnei Israël commencent d'abord par mettre du sang sur les côtés. En fait, ils vont ainsi, d'une certaine manière, comprendre que pour bien comprendre la Torah que je vais leur transmettre, ils doivent passer par votre intermédiaire. Mais lui, Moshe Rabbeinu, il est anav, il est modeste. Et donc il commence par dire, d'abord vous mettrez en haut. Ça veut dire, vous allez recevoir la Torah de Dieu, et Hachem est la référence. Et nous ensuite, Hachem va nous permettre de transmettre cette Torah. Que vont faire les Bnei Israël, finalement? Eh bien, ils vont commencer par ils vont faire ce que Hachem leur a demandé, c'est-à-dire qu'ils vont commencer d'abord par mettre le sang sur les côtés, et ensuite au-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont marquer leur approbation sur cette idée que la Torah, elle est donnée par Hachem, c'est vrai, mais elle est enseignée par deux bergers, qui sont Aaron et qui sont Moshe et qui sont Aaron, et donc ils marquent leur adhésion à cette idée que, c'est vrai, Dieu donne la Torah au Mont Sinaï, mais que si on n'a pas des chachabim, on n'a pas des sages, on n'a pas des maîtres pour nous l'expliquer, si on n'a pas la Torah orale, on ne peut pas y accéder. Alors, avec ce petit retour en arrière, on comprend ce qui se passe en fait au Mont Sinaï. Pour les Bnei Israël, ça n'a pas été évident d'accepter la Torah orale, mais ça a été évident pour eux d'accepter qu'il y aurait des hommes pour la leur transmettre, qu'il y aurait des rabbanim, qu'il y aurait des maîtres spirituels, qu'il y aurait des gens qui leur expliqueraient ce qu'est la Torah orale. Et il y a ici un secret qui est tout à fait fondamental, mais comme on est sur la radio, je vous le dis, et il faut le répéter. Ce secret nous dit la chose suivante. C'est que lorsque nos sages nous disent dans les maximes de nos pères, dans Pirkei Avot, « Assez les charaves, fais-toi un rave, ou kné les charaver et acquiers-toi un ami », ils nous disent que pour les mitzvot et pour la Torah, pour bien les comprendre, effectivement, « Assez les charaves, tu dois avoir un rave, tu dois avoir une personne qui représente le vécu de la Torah. » Nos sages nous disent « Gedola shimusha milimuda », il est plus grand. Finalement, c'est plus grand finalement la fréquentation des sages, la fréquentation de ceux qui étudient que le fait même d'étudier. Pourquoi ? Parce que ceux qui étudient, les maîtres qui sont là, ils nous montrent comment la Torah est traduite finalement dans le vécu, comment elle est traduite dans le quotidien, comment elle est traduite dans l'être même de l'individu, dans sa respiration. Alors que finalement, le livre, il nous enseigne une chose que nous allons devoir intégrer par un lent travail et également que nous allons traduire dans notre chemin de vie. Mais avoir un maître, c'est finalement voir la concrétisation, la traduction concrète, pratique de la Torah devant nous. Et ça, c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Les Bnei Israël ont reçu la Torah, mais ils ont été capables de la recevoir après de la part de Moshe, c'est-à-dire de la part d'un maître. Ils ont été capables d'accepter cette verticalité, cette hiérarchie qui est de recevoir de la Torah d'un maître. Et ça, c'est tout à fait fondamental parce qu'on vit aujourd'hui à l'ère d'Internet où les gens peuvent regarder des cours, les gens peuvent se cultiver, je parle de la Torah, ils peuvent étudier, mais ils peuvent ne pas avoir de rave. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Internet permet aujourd'hui l'accès à la connaissance, mais il ne permet pas l'accès à un rave. Or, c'est fondamental de le rappeler. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir un rave. Et donc, de fréquenter un Beit HaMidrash, un centre d'études, une synagogue, un endroit dans lequel on étudie avec un être de chair et de sang, qui est là, qui vit dans la Torah, qui est marié, qui a des enfants, qui les éduque, qui mène sa vie, et on le voit mener sa vie. Avoir un maître de chair et de sang, et pas un maître mythologique, perché, si je puis dire, dans les souvenirs, ou alors un maître voilà, qui ne soit pas là finalement avec lequel on ne vit pas. Il faut chercher à être proche d'un maître de Torah et à vivre à sa proximité pour comprendre ce que la Torah nous demande, et ça c'est un enseignement fondamental parce que c'est ce qui fait que finalement on vit quotidiennement un Mont Sinaï en quelque sorte, on vit quotidiennement une réalisation, une réalité de la Torah. Moi, je me rappelle, par exemple, que quand je suis arrivé ici en Israël, j'étais au collège de Rav Mordechai Eliyahu, et j'avais la possibilité régulièrement de rentrer chez lui, c'est-à-dire de le voir à la maison, le voir converser avec son épouse, le voir converser donc, avec ses enfants qui étaient déjà grands, le voir traiter certaines affaires, et vivre comme ça, dans les 2 mètres carrés d'un grand maître. C'était tout à fait saisissant et je pense que c'est comme ça pour tous les gens qui ont la possibilité de fréquenter donc des golims, des grands du peuple juif. Voilà, c'est ça finalement recevoir la Torah, c'est avoir un maître de chair et de sang et on vit à côté de lui, on le voit vivre, c'est ce qui nous permet de comprendre finalement ce qu'est le vécu de la Torah, ce qui est le plus fondamental. Voilà, Shavua Tov à toutes et à tous.
On est évidemment très très jaloux de vous. C'est vrai que moi déjà si j'avais la chance ne serait-ce que de le voir une ou deux fois. C'est un personnage historique du peuple juif, vraiment, derrière Eliyahu, un des moi, et je partage ça avec vous, j'ai eu la chance de connaître ce que vous venez de dire, et c'est vrai que, par certains aspects, j'ai plus appris en étant à côté de Rav Rosenberg, en le voyant, je sais pas, des fois, parce que un homme, pas seulement un homme de cette stature, mais un homme, des fois, simplement, il veut dire, mais et pourquoi tu dis ça ? Et rien que sur une façon d'être... le matin après la tefila, le samedi après-midi, Seouda Shlichit, des moments où c'est pas une conférence, où on voit comment il rentre, comment il tient son livre, comment il a l'air surpris quand il entend quelque chose qui nous ne nous surprend pas. C'est vrai que c'est énorme, c'est énorme. Et je vais en profiter, Mordechai, avec votre permission, de répéter justement ce que m'a dit ce matin son fils Rav Yosef Rosenberg. Il m'a dit, on était 3-4, il dit, vous savez... je vais vous donner une preuve que les enseignements que Dieu nous a donnés sur la façon d'être les uns avec les autres sont plus importants. Il les considère plus importants, lui, Hachem, que les enseignements de comment on doit se comporter vis-à-vis de lui. Plus important pour lui, mais Adam les Chavero, que mais Adam la main, comme on le sait. Parce que sur les tables, les enseignements de mais Adam la main, c'est deux mots. Non, Miadam, la Chavero, c'est deux mots. Tu feras pas l'adultère, tu voleras pas. Alors que tous les enseignements concernant Dieu, c'est des longues phrases. Bah alors si c'est des longues phrases pour Dieu, c'est plus important peut-être les phrases, non? Parce que sur les louchotes, sur les tables, les enseignements
pour comment on doit se comporter entre nous, juifs, ou entre nous, êtres humains, c'est plus important, parce que c'est écrit plus gros, c'est plus gros que l'enseignement qui nous est donné de comment on doit se comporter vis-à-vis de Dieu. Mais, ajoutez donc notre Magichur ce matin, notre Rav, mais, disait-il, tu fais comme ça avec les autres, parce que Dieu te l'a demandé, ne l'oublie pas. C'est plus important comment tu agis avec les autres, d'accord ? Mais n'oublie pas que tu le fais justement parce que c'est Dieu qui te l'a demandé. C'est intéressant, Mordechai. Excusez-moi, j'étais un peu long. C'est pas mon habitude, mais...
Oui, tout à fait. On part dans une autre direction qui n'est pas directement liée au fait d'avoir un maître. Mais ce que disait le Rav ce matin, c'est l'occasion de le voir. On sait que Rav Rosenberg était très macpide, était très, très pointilleux sur le rapport à l'autre. C'était quelque chose d'important pour lui. Et c'est important que ça passe chez son fils et que ça passe dans ce qui est dans l'enseignement qui est donné aujourd'hui en son nom. Oui, effectivement.
Quand vous enseignez, tous vous les rabbinim, ça se perd pas.
c'est fondamental parce que il faut bien se rappeler effectivement cette idée, parce qu'on parle beaucoup de la relation à l'autre très souvent, mais les gens oublient que c'est la relation à l'autre parce que Hachem l'a ordonné. C'est pas la relation à l'autre pour avoir une relation sociale correcte, politiquement correcte. Vous voyez, c'est une relation à l'autre parce que Hachem l'a ordonné, parce que c'est la volonté d'Hachem.
Rav Mordechai Biton, merci, vous qui êtes à Jérusalem, pas très loin du quartier de Neve Yaakov. On pense à ce jeune soldat, Nadav. Et voilà, on est très heureux d'avoir donné votre cours à ce jeune homme qui a sauvé des vies. Merci à vous. Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shavua Tov.
Bonsoir Shavua Tov.
Rav Gueh, Rav Mordechai Biton a eu une idée formidable. Il a dit on va donner secours à la santé de Nadav. Ce soldat qui est dans une situation critique pour s'être battu contre des terroristes à Jérusalem, je suis sûr que vous allez le suivre dans notre démarche, parce qu'il a sauvé des vies, et donc avec votre permission, et je ne vous ai même pas demandé en micro.
C'est normal, c'est toutes ces personnes qui défendent Jérusalem, et en plus le Kotel, cette région du Kotel, et toutes ces personnes qui risquent leur vie tous les jours et qui là sont entre la vie et la mort, si j'ai bien compris, c'est une situation délicate. Ouais. On prie très fort tous, tout le peuple juif, pour sa guérison rapide et complète.
Amen. Sachant bien sûr que nous enregistrons notre cours. Les rabbanim ne parlent pas le samedi après-midi, on enregistre notre émission et donc... On donne notre réflexion de ce soir, notre cours de Torah de ce soir à Nadav, j'ai oublié le nom de la maman, qui est entre la vie et la mort alors qu'il s'est battu dans le quartier de Silwan pour sauver des vies. Alors on continue notre réflexion sur Yitro. Et la paracha s'appelle Yitro, du nom d'un homme qui n'est pas le descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui n'est pas qui a un parcours tout à fait particulier. Bon, il n'y a pas encore de conversion, quoique souvent j'entends dire il est converti, vous me direz si vous êtes d'accord avec ou pas. Mais bon, normalement il n'y a pas encore. Et on lui donne la paracha, elle est de son nom. On n'a aucune paracha qui s'appelle, Yaakov. Mais lui, il a tout ça. Et il a tout ça parce qu'il a des qualités exceptionnelles qui font qu'on lui a donné un honneur qu'on n'a donné à aucun autre homme au monde. Alors Rav Gueh, est-ce que vous dites c'est bien que c'est comme ça que vous voulez qu'on présente votre cours? Et deuxièmement, est-ce que j'ai bien compris? Et deuxièmement, pourquoi?
Alors d'abord, je parlais d'un honneur unique dans l'histoire, parce qu'il faut bien comprendre que lorsque Yitro s'approche, il est pratiquement arrivé dans le campement des enfants d'Israël dans le désert. Il fait savoir qu'il arrive, donc il fait savoir qu'il arrive avec la femme de Moshe et ses enfants. Et là, Moshe sort à la rencontre de son beau-père, Yitro. Et lorsque Moshe sort, Aaron le suit, les 70 anciens les suivent, et puis après tout le peuple juif le suit. Ça veut dire en fait tout le peuple juif à leur tête, à Moshe et Aaron, ni plus ni moins, et puis tous les sages d'Israël, enfin tout Israël, les notables et ceux qui ne le sont pas, vont à la rencontre de Yitro. Donc je disais que c'est un honneur unique dans l'histoire, parce que je ne pense pas qu'on peut plus honorer un homme que de voir Moshe sortir à sa rencontre, et jamais on trouvera un Moshe Rabbeinu qui ira à la rencontre de qui que ce soit. Et donc on a ici un honneur unique qui est donné à un homme Yitro, et qui en plus donne le nom de la paracha, une paracha sans doute, je sais pas, on peut pas dire la plus importante, mais en tout cas centrale dans la Torah, qui est celle de Matan Torah, la description du don de la Torah. Donc c'est un moment absolument incroyable. Mais c'est pas terminé. Yitro donne des conseils. Il arrive, il est, a priori, il a pas le Yichus, il a pas vraiment une ascendance tellement prestigieuse, ce qui n'est pas le cas de Moshe. Moshe est descendant de Lévi, de Yaakov, etc. Mais Yitro pas du tout, il était idolâtre. Était même un maître idolâtre. Il a essayé toutes les idoles du monde. Et il était même le conseiller de Pharaon. Donc c'était un homme qui était considéré comme un sage, puisqu'il allait conseiller Pharaon, le chef de l'Égypte, donc la superpuissance de l'époque, alors qu'il n'était pas égyptien. Donc ça montre bien qu'il était reconnu pour être un sage, mais évidemment pas un juif, ni quelqu'un attaché, le mot juif n'existait pas à l'époque, mais pas du tout affilié au peuple juif, ou à celui qui allait devenir le peuple juif, pas du tout affilié à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et pourtant un homme qui va marquer l'histoire jusqu'à la fin des temps. Donc c'est quelque chose qui me fait réfléchir, je pense nous fait réfléchir à tous, en disant mais pourquoi, par quel mérite? Alors on a tous compris que le mérite de Yitro, c'est d'avoir justement eu le courage de changer de vie. C'est-à-dire, en fait, il était un homme qui cherchait la vérité. Il a cherché à tout prix. Il a cherché d'abord dans toutes les idoles du monde. Il a essayé toutes les croyances du monde entier. Et puis finalement, il a compris que la seule croyance, c'était celle du peuple juif. Il a entendu que le peuple juif avait traversé la mer. Il a vu que le peuple juif avait vaincu Amalek. Et à ce moment-là, donc ça, je dis qu'il a compris, qu'il a accepté, qu'il a reconnu et qu'il a tout laissé tomber. Et déjà avant, il avait tourné sa veste, si on peut dire. Il avait fait déjà un premier pas. Lorsque Moshe est devenu son gendre, il était déjà dans cette démarche. Et c'est pour cela que ses filles ont été malmenées par les autres bergers, que Moshe est venu à leur rescousse, parce qu'il était excommunié. Il était exclu de son pays parce qu'il avait justement montré qu'il avait refusé maintenant l'idolâtrie. Et c'est tout simplement un acte absolument incroyable que celui de tout laisser tomber pour rejoindre les Juifs, les Bnei Israël dans le désert, et s'attacher à la loi de Moïse. Alors, je crois qu'on a tous besoin ici de bien comprendre que la Torah, si elle met en valeur cette démarche, cet homme et donc cette démarche, c'est qu'elle veut nous apprendre quelque chose de très important. Quelle est véritablement la plus grande valeur qui soit pour vraiment accéder à la Torah? Parce que c'est la paracha de Matan Torah. Il faut se dire, mais comment recevoir la Torah? Comment être digne pour recevoir, être au niveau pour recevoir la Torah? Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous raconter sous la forme d'une histoire. C'est un homme qui cherchait un chidour, c'est-à-dire un garçon pour sa fille. Un homme fortuné qui se rend dans une yeshiva et qui parle au Rosh Yeshiva, au chef de la yeshiva, au directeur de la yeshiva, en disant « Dites-moi, voilà, je veux prendre le meilleur élève pour ma fille. » Alors, le Rav lui donne des noms. Dit celui-là, c'est le plus intelligent, celui-là, il a la meilleure mémoire, celui-là, il a la plus grande analyse, celui-là, ceci, celui-là, cela. Il fait le tour de tous les bachorim, mais il se rend compte qu'il y en a beaucoup de grandes qualités. Il dit, bon, dites-moi, mais c'est quoi le meilleur? C'est qui le meilleur? Et finalement, il lui donne le nom d'un autre élève qui n'est ni le plus intelligent, ni celui qui a la plus meilleure mémoire, ni celui qui fait la plus grande analyse. Finalement, il ne fait pas partie de la liste. Un outsider. Il dit, mais je comprends pas, c'est qui celui-là? Dit celui-là, celui qui en veut le plus. Celui qui me vaquèche, qui en veut vraiment, qui lâche pas. Il veut absolument comprendre, il ne lâche rien. C'est l'homme qu'on appelle le me vaquèche, celui qui cherche, celui qui veut comprendre et qui ne lâche rien. Et donc, cet homme, c'est le père de Raphaël Kenevsky, le Rav Israël de Yaakov Stipeler, qu'on appelle Stipeler. C'était un homme qui pouvait étudier 36 heures d'affilée. Il était d'une soif voilà, incroyable pour la Torah. Cet homme-là, le Mevakech, c'est celui qu'il va choisir pour être son gendre. Et finalement, ce ne sera pas lui qui sera le beau-père du Stipeler, ce sera le Chazon Ish qui va choisir le Stipeler pour être son beau-frère, il va se marier avec sa sœur. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais je voudrais raconter une deuxième histoire et vous montrer encore, insister sur une histoire que le Rav Sitruk, Zichrono Levracha, aimait raconter. Le Rav nous disait souvent cette histoire, disait qu'il y avait encore une fois un papa qui cherchait pour sa fille, encore une fois, un shiur dans une yeshiva. Et pour faire, il avait fait un test. Il s'est dit, je vais poser une question difficile. Donc c'était lui-même un homme versé dans l'étude. Il s'est dit, je vais leur faire poser une question difficile. Celui qui répondra sera le gendre de mon gendre, le mari de ma fille. Donc il pose la question, il leur laisse quelques heures, et puis finalement, personne ne trouve la réponse. Bon, il s'en va, il est un peu déçu, il n'a pas trouvé le hilou, la personne très intelligente, capable de répondre à sa question. Donc il est en train de repartir dans sa calèche, et puis il entend des bruits de pas, des gens qui crient, quelqu'un qui crie, qui l'appelle, qui l'interpelle, il s'arrête et il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, c'est un des élèves de Yeshiva qui lui court après, dit monsieur, vous avez posé une question. Alors, j'ai pas la. Alors, il lui demande tu as la réponse. Il dit non, je n'ai pas la réponse. Alors, il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux savoir la réponse, je veux la connaître, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai couru après. Il dit bon, écoute, voilà la réponse. Et je voudrais te dire que c'est toi qui deviendras le mari de ma fille, parce que effectivement, tu étais intéressé par la réponse, pas par ma fille. Tu as mes vacances, toi aussi, tu cherches la vérité. Et en vérité, ce que je voudrais dire à tous nos auditeurs, c'est que peut-être que c'est ça la grandeur de la Torah. La Torah n'est pas réservée à des gens avec un QI surdéveloppé. La Torah n'est pas réservée à une élite intellectuelle. La Torah n'est pas réservée à des gens avec une mémoire photographique ou avec je ne sais quoi. La Torah, elle est posée, comme nous disent nos sages, dans un coin, et tout le monde peut venir l'apprendre. Mais la meilleure, c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus intelligents, mais c'est souvent tout simplement ceux qui en veulent le plus, ceux qui ont une soif inextinguible de Torah. C'est ceux-là qui finissent par émerger, par véritablement s'attacher à elle. Et je crois que c'est, on parle encore de Raphaël Kanevski, puisque on est encore dans l'année de sa disparition, lorsqu'on se demandait mais comment le Raphaël Kanevski a eu le mérite d'avoir une connaissance aussi incroyable de la Torah dans tous les domaines. C'est une connaissance encyclopédique vraiment incroyable de la Torah. Et ce qui le caractérisait justement, c'est cet amour inconditionnel pour la Torah et surtout pour rien d'autre. Rien n'intéressait à part la Torah, il était totalement attaché à elle, et la Torah se livre comme une femme, en fait, un peu, qui sent un amour, et donc elle attend de son amoureux, de son fiancé, un amour absolument exclusif, total et sans partage. Eh bien, c'est ce que Raphaël Kanevski a offert à la Torah. Donc la Torah s'est livrée à lui, comme une femme se livrerait à son fiancé, parce que justement, elle sent que c'est un amour exclusif et un vrai attachement, une vraie recherche. Finalement, c'est ça qui est très intéressant dans la Torah. La Torah n'est pas élitiste, elle ne choisit pas des familles. Yitro ne vient pas d'une grande famille, loin de là. Il a un passé, on va dire, pas très glorieux, puisqu'il a fait des expériences différentes, mais finalement, c'est celui qui va laisser une marque incroyable. Comme vous dites, il n'y a pas de parachat d'Abraham, ni d'un parachat d'Yitzhak, ni de parachat de Yaakov, mais une parachat de Yitro, pour nous dire, voilà, finalement, une invitation à bien réfléchir, qu'on doit tous se remettre en question, se dire, voilà, finalement, même si on n'a pas une famille, entre guillemets, très connue, reconnue, même si on n'a pas une intelligence extraordinaire, même si on n'a pas telle ou telle qualité intellectuelle, ce qui compte le plus, c'est l'attachement, la recherche, la volonté profonde de connaître, de s'attacher et de vivre des grands moments de connaissance, d'apprentissage de Torah. Et c'est cela qui, finalement, donne des grands hommes. Donc ça n'a pas changé depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Et Yitro nous rappelle, comme on vient de le dire, que c'est ça la condition, l'introduction même, puisque c'est l'introduction que la Torah donne au don de la Torah, c'est justement le récit de Yitro. Et c'est ce que Hachem donne, le kavod extraordinaire d'un Yitro qui est servi. En plus, nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu faisait le service, c'était lui le serveur, pendant le repas d'accueil de Yitro. Donc incroyable, incroyable, c'est lui qui faisait le service. Ça va vous expliquer combien on donne des honneurs à cet homme, impressionnant.
On ne sait pas qui sera assis à la droite de Moshe Rabbeinu, hein. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. On ne sait pas qui au bout du compte aura accompli le chemin le plus incroyable. Le Mevakesh, tel que vous l'avez décrit, celui qui était le plus assoiffé, le plus qui demandait le plus, c'est le Stipeler, ou c'est le Stipeler qui a demandé ça pour avoir un gendre?
Non, alors c'est un monsieur qui cherchait un mari pour sa fille qui on lui a dit que la personne qui se distinguait.
Et c'est le stapler.
C'est le stapler qui finalement
donc,
est donné.
Voilà.
C'était wow. Quelqu'un qui avait une soif absolument inextinguible et donc il est devenu l'homme qu'on connaît avec une. Il n'était pas le plus intelligent, c'est ça que je veux dire. C'était pas du tout le plus doué. D'ailleurs, le Rav Frank Janevski, il y a des témoignages de gens qui étaient avec lui à la yeshiva. Ils ont dit que c'était pas le meilleur, loin de pas le meilleur de la yeshiva. Et c'est ça qui est tellement beau dans la Torah, c'est qu'il n'y a pas d'élite, il y a pas de. On ne tombe pas dedans en étant petit, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de. Tout le monde peut y accéder, tout le monde.
Rav Gay, magnifique. Rav Gay, je vous remercie. Et Shavua Tov. Bonsoir à vous.
Shavua Tov. Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de votre attention. C'est à mon tour de vous dire Shavua Tov. Excellente soirée à tous.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.